Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, mort du prince Ampaté Sidibé, prince de l'émirat de Barani, samedi dernier à la brigade de gendarmerie de Kossiam. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC dénonce des morts suspectes dans des brigades de gendarmerie à Ouagadougou. 40 terroristes neutralisés à Bourzanga, le président du FASO, le lieutenant-colonel Polari Damiba, célèbre les héros du détachement en leur décernant la médaille de la croix du combattant. Notre invité ce jour est Justin Kietega, évêque de Waiguia. Avec lui, on parlera entre autres de l'accompagnement de l'église à l'endroit des personnes déplacées internes qui ont fui l'insécurité pour se retrouver à Waiguia. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC a dénoncé hier des morts suspectes dans des brigades de gendarmerie à Ouagadougou. Le dernier cas en date est la mort de Ampaté Sidibé, 58 ans, prince de l'émirat de Barani, qui est mort samedi dernier à la gendarmerie de Kossiam, dans des circonstances très troubles, indique le communiqué du collectif. Le prince de l'émirat de Barani a été arrêté à Barani le 6 mai dernier par des éléments du détachement militaire du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention du Haut-Sahel Garci à Barani dans la province de la Kossi. Pour en savoir davantage, nous sommes en ligne avec Daouda Diallo, secrétaire général du CISC. Daouda Diallo, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Kader.
Alors, vous avez sorti donc un communiqué ce week-end pour dénoncer des cas de mort suspectes dans des brigades de gendarmerie. Qu'en est-il exactement?
Exactement, c'est suite à plusieurs cas constatés qui sont intervenus, des cas malheureux de décès dans nos gendarmeries. Il y a eu un cas à Bascuy, ça c'était autour du 15 mai et 2022, et le dernier cas qui a été annoncé, c'était le 20 mai 2022. Donc, nous estimons que c'est trop, ça devient trop, parce que ça, c'est pour les cas qui sont connus. Il y en a plusieurs autres cas qui ne sont pas connus, qui ne sont pas médiatisés.
Alors, qu'est-ce que donc vous tentez de dénoncer ici?
Ce que nous dénonçons, c'est très simple. Il faut que nos forces de défense et de sécurité, nos services de sécurité respectent le droit à la présomption d'innocence. Et parce que c'est pas normal que quelqu'un soit appréhendé par les services de sécurité et la personne est en bonne santé. Et en quelques jours, on n'a pas un décès brutal de cette personne, tout en sachant très bien que quand la personne a été arrêtée, les conditions ont été réunies pour que la famille et ne soit pas en contact avec la personne ou que la famille n'ait pas les nouvelles de cette personne. Pourtant, quand même, le droit burkinabé aussi garantit le droit à la visite. Donc, pour nous, il faut que les exécutions extrajudiciaires ou les assassinats troubles ou les crimes troubles soient vraiment arrêtés. Parce que ça n'honore pas l'institution des services de sécurité et ça n'honore pas le droit et l'État burkinabé.
Pour en parler, nous recevons donc Lamine Traoré sur ce plateau. Alors Lamine, vous avez pu avoir des sources au niveau de la gendarmerie. Que disent ces sources par rapport à cette affaire?
Oui, Kader, on a pu avoir, Oméga a pu avoir donc des sources. Ce matin, on a pu avoir plusieurs personnes, en tout cas au sein de la gendarmerie, qui se prononcent sur ces cas de mort suspecte dans des brigades de gendarmerie. À Ouagadougou, en fait, nos sources indiquent que ces personnes sont mortes de la même façon. Elles étaient malades dans des cellules et par la suite sont mortes à l'hôpital. Sur, par exemple, dans le communiqué du CISC, il y a deux cas qui sont donc soulignés. Pour Ampaté Sidibé, le prince de l'émirat de Barani, il était d'abord recherché, selon nos sources, par une commission rogatoire antiterroriste. Donc, il était recherché par le juge juge antiterroriste, selon donc ses sources au sein de la gendarmerie, qui nous indique que il avait près de 60 ans et les conditions de détention ne sont pas simples. Les cellules sont chaudes. Nos sources indiquent que certainement, vu son âge et avec ses cellules qui sont chaudes, cette chaleur, certainement que c'est ce qui donc a conduit à cette mort. Et on parlera aussi le deuxième cas, Amadou Diko. Lui, il est aussi tombé malade comme le premier et il est décédé donc selon donc nos sources. Il avait été interpellé pour une histoire de chicha. Disent la gendarmerie, des sources en tout cas au sein de la gendarmerie. La perquisition d'ailleurs a montré qu'il vendait des stupéfiants. La gendarmerie est catégorique, elle n'a tué personne, elle n'est pas... C'est vrai que ce sont des cas malheureux et la gendarmerie trouve que c'est bien bizarre, mais elle n'a vraiment tué personne. C'est clair que la gendarmerie qui est nationale, qui est un corps d'élite, naturellement des cas de mort suspecte au sein donc de ces brigades suscitent assez de réactions, comme je le disais, mais ça nécessite des enquêtes plus approfondies. Et je pense que c'est ce qui devrait donc être fait dans les prochains jours.
Merci beaucoup, Lamine Traoré, pour ces précisions. Restons dans la série des visites du président du Faso au lendemain de l'attaque du détachement militaire de Bourzanga dans le centre nord qui a fait 5 soldats tués, 10 soldats blessés et 40 terroristes neutralisés selon un bilan réactualisé. Le président Damiba s'est rendu hier dans le détachement de Bourzanga et a salué la bravoure et l'engagement des hommes face à la puissance de feu d'un ennemi lourdement armé. Plus de détails dans ce compte-rendu de Bernabé Cabré.
Le chef de l'État à Bourzanga. En effectuant ce déplacement, le président Damiba tenait à saluer la bravoure et l'engagement du détachement après l'attaque qu'il a essuyée samedi et qui a permis de neutraliser 40 terroristes selon les derniers chiffres, de récupérer 3 véhicules dont un blindé, des armes individuelles et collectives, des motos et divers matériels. Pour le président Damiba, ceux qui attaquent actuellement le Burkina Faso ont deux options.
L'option du dialogue ou l'option de la poursuite de leurs actions armées et violentes. Tendrons la main à ceux-là qui veulent abandonner le combat, mais nous sévirons contre ceux-là qui veulent perdurer dans la violence contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles et contre les auxiliaires de la défense.
L'attaque de Bourzanga est la preuve que l'ennemi n'est pas supérieur aux forces de défense et de sécurité, a insisté le président du Faso.
Ils ont certainement des ressources humaines, matérielles, des appuis, mais ils ne peuvent pas être supérieurs à un pays qui se met ensemble.
Cette visite va davantage motiver les militaires, selon le chef du détachement, lieutenant Assoumani Beogo.
C'est très réconfortant de voir Son Excellence, Monsieur le Président, ici pour nous encourager, parce que ça permet aussi aux hommes de savoir que devant, les gens sont avec eux.
Cette attaque ne sera certainement pas la dernière. Après une défaite, les terroristes vont sans doute chercher à prendre leur revanche. Le président Damiba a appelé les hommes du lieutenant Assoumani Beogo à rester vigilants.
Il faudra toujours garder en chacun de vous de l'engagement, de la détermination, en sachant seulement que nous ne faisons pas face à des personnes qui sont supérieures, mais à des personnes aussi qui sont mortels, qui ont subi d'énormes pertes. Il faudra garder ça à l'esprit et demeurer vigilant.
Le détachement a perdu 5 hommes dans cette attaque. L'adjudant Ousseni Kirakoya, le sergent Justin Kourané, le caporal Madi Wedrago et les soldats de première classe Souleymane Maré et Alain Boro. Tout le personnel a été décoré à travers 5 éléments qui ont reçu symboliquement la médaille de la croix du combattant.
Parlons toujours du terrorisme, notamment le retrait du Mali du G5 Sahel et de toutes les instances et organes de l'institution ainsi que de la force conjointe de lutte contre le terrorisme dimanche dernier. Un retrait qui va probablement paralyser la force commune engagée dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Mahamadou Sawadgo, expert en sécurité, se prononce sur l'avenir de cette institution après le retrait d'un membre stratégique.
Effectivement, le G5 Sahel est presque mort ou on vient de l'achever et avec des résultats mitigés. Mais avec la sortie du Mali on se retrouve avec un G5 Sahel amputé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au niveau du G5 Sahel, il y a des fuseaux. Il y a le fuseau ouest, le fuseau central et le fuseau est. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Mauritanie et le Mali, qui constituaient le fuseau et ouest, est aujourd'hui non fonctionnel, c'est-à-dire la Mauritanie est isolée. Et donc, l'est, du coup, le Tchad, le Niger et le Burkina est d'un autre côté. Mais je pense que les chefs d'État avaient déjà anticipé et avec cette mort en tentant de formaliser l'initiative d'Accra. Et aujourd'hui, l'initiative d'Accra est en train de se formaliser et aussi en train de mettre en place une force multilatérale mixte qui va peut-être prendre la relève du G5 Sahel. Et mieux, l'initiative d'Accra a appris des erreurs du G5 Sahel parce que l'initiative d'Accra refuse et tout financement extérieur. Donc c'est les États eux-mêmes qui vont financer et qui vont gérer et la force multilatérale, la force mixte. Et aujourd'hui, le Burkina est candidat pour être la base logistique de cette initiative d'Accra. D'accord. Et ce qui est un peu, pour terminer, ce qui est un peu bizarre, c'est que au dernier sommet de l'initiative d'Accra, les États membres de l'initiative d'Accra ont demandé de lever la mesure sécuritaire, les sanctions sécuritaires sur le Mali, afin que le Mali puisse être membre. Mais qui sont les États membres de l'initiative d'Accra? C'est le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et même le Nigeria, qui est un pays observateur. Et donc, les pays de la CEDEAO qui se demandent à eux-mêmes de laisser... C'est comme si eux-mêmes se demandaient, ils se posaient la question s'il faut laisser rentrer le Mali. Donc, pour moi, il est clair qu'il y avait déjà une alternative et désormais, il va falloir aller au niveau de la coopération bilatérale entre les pays pour pallier à l'absence du G5 Sahel.
Tout autre chose dans ce journal, l'Amicale des femmes de Vista Bank, AmiFeb, a organisé samedi dernier une journée de formation sur le leadership féminin au profit de son personnel féminin. Une sortie détente qui s'est tenue à Lumbila avec pour thème « Le leadership féminin en milieu professionnel, comment concilier le familial social et le professionnel ?» Cette journée a également été une occasion pour les organisateurs de rendre visite aux personnes déplacées internes sur le site de Saba. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
L'AmiFeb, l'amicale des femmes de Vista Bank, se lance dans la vision du leadership. Elles ont organisé une journée de formation dédiée à la femme aspirant au leadership au sein de Vista Bank, placée sous le thème « Le leadership féminin en milieu professionnel, comment concilier le familial, social et le professionnel ». Voilà sur quoi s'est déroulée cette journée de formation de l'AmiFeb. Fatoumata Traoré, vice-présidente de l'AmiFeb.
Nous avons donc choisi un thème de formation pour les membres de l'amicale, qui est le leadership en milieu féminin. Nous avons choisi le leadership féminin pour que les femmes puissent porter haut le flambeau de Vista Bank en étant manager, en étant leader.
Quelle est la place de la femme africaine dans la chaîne de développement en ce 21e siècle? Une telle question révèle l'importance capitale de cette journée de formation en management et leadership initiée par l'AmiFeb. Tousida Ouedraogo, formatrice.
Nous sommes au 21e siècle. Il faut que les femmes s'affirment. Au niveau du management ou bien du leadership, ça a toujours été les hommes. Maintenant, les femmes font les mêmes études. Pourquoi pas? Il faut qu'elles s'affirment, qu'elles étudient plus. Ça fait partie du développement aussi. Pour pouvoir être leader, il faut se former. La formation, elle est importante.
Une initiative appréciée des participants qui trouvent de l'intérêt dans le leadership féminin, mais tout est question d'organisation et de solidarité au sein des femmes. Thérèse Sawadogo, participante.
Ce que j'ai pu retenir, c'est que le leadership peut permettre à la femme d'aller de l'avant.
Cette journée a aussi profité aux populations déplacées internes du site de Saba qui ont bénéficié d'un don d'une valeur d'un million de francs CFA, dont composé de riz, de maïs, savon, des nattes et des vêtements face aux dents de famille. Plus de 100 personnes déplacées vont être impactées par ce don.
La revue de presse.
La défaite sur les terroristes à La victoire sur les terroristes donc à Bourzanga samedi dernier retient l'attention des quotidiens du jour. Sur une partie, des confrères louent le partenariat et le renfort extérieur. D'autres estiment que c'est d'abord une victoire à mettre à l'actif des soldats burkinabés sur le terrain avant l'arrivée du renfort. Et les confrères rappellent la nécessité d'équiper et renforcer les moyens aériens pour les boys qui ont suffisamment engager des résultats, mais qui manquent de moyens. Voyons cela plus en détail avec Asmao Dao.
Aujourd'hui, lundi, les confrères dressent leurs plumes sur la défaite de terroristes à Bouzanga samedi dernier. Pour le quotidien, l'appui aérien fait la différence. Et son coup de gueule, il écrit « Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des armées, nous avons des hommes et des femmes engagés. Ce qui leur manque sur le terrain de la lutte, ce sont toujours les moyens, surtout aériens. Notre armée veut maintenant des hélicoptères pour enfin faire la différence. Ce n'est pas un débat. » Et l'observateur Palga encourage les boys en écrivant « Bourzanga hardi les gars, le meilleur reste à venir ». Le doyen des quotidiens loue l'appui extérieur déterminant dans la victoire acquise sur les terroristes, mais une victoire selon le confrère qui n'enlève en rien la bravoure des soldats burkinabés qui ont vraiment bandé du muscle et serré les dents pour cracher le feu sur l'ennemi pendant une bonne heure avant l'arrivée du renfort extérieur. Et le quotidien d'État citoyen de titré le tournant Bourzanga entre les lignes, il écrit « Y a-t-il un seul Burkinabé qui ne s'est pas senti fier, regaillardi le samedi 21 mai à l'annonce de la déroute des terroristes par les militaires ?» Pour ce confrère, le message est clair. L'union fait la force et rien ne pourra ébranler les Burkinabés. Tout de même, l'Express du Faso loue cette belle réaction féroce et engagée. Et il conclut que c'est ce concept typiquement burkinabé que la transition doit imaginer afin qu'à son terme, le Burkina Faso ait une trajectoire claire. De même, aujourd'hui, au Faso loue un exemple de partenariat et de mutualisation à perpétuer. Contrairement aux confrères Le Pays qui estime que c'est un coup de com', il mentionne que les états-majors des armées des deux pays ont prestamment et opportunément publié des communiqués triomphalistes qui mettent en exergue le rôle de chacun dans la déroute des assaillants de Bourzanga, comme pour dire à l'opinion publique burkinabé rétive que la collaboration entre nos FDS et notre partenaire français est la clé de voûte de notre victoire sur le terrorisme. Il y a peut-être du vrai dans ce message sublimal, mais pas sûr que cette petite éclaircie de Bourzanga dans ce ciel toujours assombri du Burkina convainque ceux qui en doutent encore que la France garde le cap et poursuive sa lutte sans merci et sans relâche contre les terroristes, estime notre confrère Le Pays.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Monseigneur Justin Kientega, évêque de Waigua, est notre invité du jour. Avec lui, on parlera entre autres de l'accompagnement de l'Église envers les personnes déplacées internes qui ont fui l'insécurité pour se retrouver à Waigua. Monseigneur Justin Kientega est interrogé par Brigitte Yoda.
Monseigneur Justin Kietega, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque de Waigua. Votre ville accueille de nombreux PDI qui ont fui l'insécurité. Dites-nous d'abord, quelle est la situation dans votre localité?
Nous rendons grâce à Dieu. Comme vous l'avez dit, nous avons pu accueillir des frères, des sœurs, des adultes, des enfants dans la ville de Waigua. Et mon diocèse va jusqu'à, bien sûr, Kongoussi et tout ça. C'est le grand centre où il y a des PDI, Kongoussi et puis Waigua. Donc, dans ces deux grandes villes-là, il y a beaucoup de PDI. L'Église s'est organisée au départ avec les communautés chrétiennes de base pour accueillir ceux qui venaient, les loger chez eux, partager le peu qu'ils avaient. Et ensuite, bien sûr, avec la Caritas, le Cades Caritas, nous avons rassemblé quelques biens, des vivres, des vêtements pour pouvoir distribuer à ces PDI-là. Et actuellement, c'est grâce à des organismes, à nos amis qui sont à Limoges, ce sont un diocèse jumelé, qui nous appuie dans l'aide de ces déplacés-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment que, bon, avec le prêtre chargé des migrants, on a organisé quand même des moments de rencontre avec eux, surtout sur Waigua. Et bon, de temps en temps, je célèbre la messe avec l'un ou l'autre groupe qui est venu pour essayer d'avoir un peu plus de sérénité. Donc voilà un peu l'accompagnement. Mais présentement, nous sommes en train de former un prêtre pour venir s'occuper de ces personnes-là, l'accompagnement psychologique de ces personnes qui sont tourmentées. quand j'arrivais à aller encore à Bourzanga, c'était vraiment leur cri de cœur, que quelqu'un les écoute, que quelqu'un sache comment ils souffrent un peu. Avant, l'aspect nourriture et tout cela, ils veulent être écoutés, et ils veulent se sentir vraiment, être aimés encore par rapport à ces gens qui ne les ont pas aimés, qui les ont fait partir de ce jeu. Voilà un peu comment nous nous organisons un peu.
Justement, parlant de Bourzanga, le détachement militaire de Bourzanga a été attaqué. On a 5 soldats qui ont été tués. Est-ce que la situation ne vous inquiète pas encore plus ?
Oui, c'est toujours inquiétant. Bien sûr, comme je le disais, j'ai arrivé à aller là-bas au début des attaques et tout cela. Actuellement, il m'est difficile d'y aller. Nous sommes inquiets et nous présentons vraiment nos condoléances à toutes ces personnes-là qui ont perdu de leur militaire ou civil. Et nous prions pour tous ceux qui sont blessés dans cette attaque-là. Et nous prions surtout pour que la paix revienne. Comme on l'a dit toujours, ce sont des Burkinabés contre des Burkinabés. C'est vraiment dommage. Nous prions que chacun vraiment reprenne le bon chemin, le chemin de la conversion, le chemin de vouloir vivre en paix les uns avec les autres. Ce matin, le Père parlait bien sûr du pardon qui est là, qu'il faut pardonner. Parce que nous, en regardant Jésus-Christ, pour nous, qui est sur la croix, qui est mort et qui a pardonné, Père, pardonne-leur, nous demandons cette grâce-là. Qu'avec tout ce qui nous arrive, nous arrivions à ce pardon pour qu'il y ait la paix.
Vous avez parlé du Père Jacques Poirier qui célèbre 50 ans de vie sacerdotale. C'est pour ça que vous êtes là. Quel est le message que vous avez à lancer justement à l'occasion de cet anniversaire-là?
Voilà, le père Jacques Poirier, c'est un Canadien, Il a commencé, bien sûr, son ministère au Burundi. Il est venu là maintenant. Il est venu servir, comme je le disais, à Koudougou. Et il est parti au Canada, il est revenu de nouveau. Nous rendons grâce à Dieu pour cet amour de l'Afrique et de sa population, quelle que soit sa religion. Et mon appel, c'est que chacun de nous sache que là où il est, il doit créer un climat où il fait bon vivre, de fraternité. Que nous voyons des Blancs qui quittent et qui viennent vivre avec nous, quelle que soit nos façons de vivre. C'est merveilleux. Donc, s'accepter dans la différence, bien sûr, dans nos manières de voir et dans nos manières d'agir, et c'est beau. Donc, comme on appelle, c'est que de cette diversité-là, blanc ou noir, que nous sachions que nous sommes la même famille. Et nous prions pour le Père, afin qu'il continue toujours à témoigner de cette universalité, bien sûr, de la fraternité que nous avons tous, du même bon Dieu, qui a fait que nous sommes tous frères et sœurs, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos religions, et quelle que soit, bien sûr, notre culture.
Alors, le diocèse de Waiguya a été éprouvé, on le sait, avec des attaques des prêtres qui ont été tués à cause de leur appartenance religieuse. Comment vous parvenez à être résilient?
À Waiguya, il y a eu beaucoup de laïcs qui ont été tués à cause de leur foi, bien sûr, pas de prêtres. Les prêtres, c'est les paroisses qui ont été fermées, qui sont partis. Nous, comme je le disais, grâce à la prière, on se dit, on a espoir et on s'implique, on essaie d'aider les uns les autres à trouver des activités pour ne pas baisser les bras, pour ne pas être là toute la journée à ruminer ses angoisses. Mais on se dit, il y a de l'espoir, nous pouvons aller, et surtout la jeunesse que nous essayons de récupérer un peu dans nos écoles, dans nos établissements, pour leur dire, courage, ne baissez pas les bras.
C'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté, au direct Facebook Ibrahim Niaouné. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.